Vous écoutez France Culture.
Bonjour Sylvain, le Salon Noir. Voici exactement 60 ans, la ville de Bourges fêtait à l'automne 1948 le deuxième millénaire du fameux siège des troupes romaines de Jules César devant l'antique Avaricum. Objet de cette manifestation évoquait le temps de la Gaule indépendante. Aujourd'hui, une nouvelle exposition et un colloque retracent à Bourges l'âge du fer dans la boucle de la Loire. Pour mieux comprendre l'histoire de la Gaule celtique, mais aussi l'ancienneté de ces grandes cités gauloises, mon invité est Olivier Bünchenschütz, directeur de recherche au CNRS, fouilleur de Levroux, Bourges et du Mont-Beuvray. Olivier Bünchenschütz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'auteur d'un récent livre publié chez Armand Collin et tout simplement intitulé « Les Celtes ». Olivier Bünchenschütz, vous avez écrit « Parler des Celtes n'est pas sérieux, écrire sur les Gaulois encore moins ». C'est donc dans les yeux que je vous demande « Qui sont les Celtes ?»
Les Celtes est une population de l'Antiquité sur laquelle on a des sources très incomplètes, plus incomplètes que sur les Germains ou sur les... ou sur des populations beaucoup plus récentes, bien sûr, et donc ils ont fait l'objet de toute une série d'interprétations plus ou moins exactes, et notamment l'exposition montée par Jean Favière à Bourges en 1948 a dû les situer par rapport au problème de la guerre, au problème de la conquête, et on était encore dans une optique où les Celtes servaient de justification, notamment dans le malheur.
La défaite.
La défaite. Donc il fallait expliquer pourquoi, comment on faisait une exposition sur ces personnes qui avaient perdu, qui rappelaient des choses très récentes et désagréables pour les gens de cette époque-là. Les Celtes n'ont pas écrit, ce qui fait qu'on n'a pas de témoignage direct sur eux et facile, comme on peut l'avoir sur des civilisations avec écriture. Mais en revanche, ils ont laissé des traces matérielles très importantes, connues depuis longtemps, mais qui ont connu une croissance exponentielle depuis 30 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît les boutons de culotte ou les guêtres ou les chaussures des Celtes, mieux que leur langage peut-être. Donc je pense qu'ils ont une certaine réalité. Certes, ils n'avaient pas tous le même costume. Il y avait des gens qui avaient le même costume qu'eux, qui ne parlaient pas la même langue, mais on pourrait citer des cas équivalents dans le monde actuel. Donc je pense que les Celtes sont une population comme les autres et pour lesquelles on essaye de trouver des sources de connaissances diversifiées et plus ou moins objectives.
Alors Olivier, je reviens tout de suite donc sur ce que vous disiez. Il n'est pas interdit d'écrire quand on est Celte, mais de fait, on écrit très peu.
On écrit très peu, effectivement.
Et surtout pas les textes religieux et autres, absolument rien ne nous est parvenu.
Alors là déjà, on interprète parce que c'est César qui nous dit ça, c'est pas les Celtes. Donc on suit ou on ne suit pas César. Et là, il faut faire très attention. Aujourd'hui, grâce aux méthodes d'études de textes, on arrive à critiquer de très près ce travail génial qu'est la guerre des Gaules, à la fois... Enfin, je vois qu'un équivalent, c'est les mémoires de De Gaulle. Donc, vous imaginez le travail qu'il peut y avoir à faire sur ce genre de documents. Certainement, il y a des raisons religieuses, politiques, culturelles, pour qu'ils aient refusé d'utiliser l'écriture qu'ils connaissaient pourtant dès le 5e siècle avant notre ère.
Où puissent-ils leur origine ? Sur quel fondement repose cette culture ?
Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour ce qui est des archéologues, parce que sur les textes avant le 5e siècle, avant les textes grecs et latins, on n'a rien, ce que l'on peut constater, c'est qu'au moins un millénaire, voire deux millénaires avant, on a des populations dont on suit l'évolution jusqu'à des populations qui sont appelées par leurs voisins, les Celtes. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'invasion importante, au moins au niveau culturel. Les Celtes sont la tradition des cultures du premier âge du fer, de l'âge du bronze, c'est-à-dire respectivement de la première moitié du premier millénaire avant notre ère et du deuxième millénaire avant notre ère. Donc on a tendance aujourd'hui, on revient sur les théories qui avaient déjà été émises il y a une cinquantaine d'années, sur l'idée qu'au moment où, à la fin du néolithique, on voit apparaître des traits culturels qui ne sont plus vraiment des traits fonctionnels dans les cultures, donc ceux-ci ont tel type de costume ou tel type d'armement que n'ont pas leurs voisins, on peut imaginer que ce sont déjà des groupes pré-celtiques encore que ça ne veut pas dire grand-chose en histoire près quelque chose, mais disons que les Celtes sont les héritiers des cultures précédentes de l'âge du bronze du nord des Alpes.
Donc je précise bien, absolument pas de migration. Ces théories migrationnistes ont été émises pourquoi ? Parce que alors, c'était à l'époque une véritable mode ?
Bah, disons qu'il est
et d'ailleurs,
aussi...
à quelle époque ça s'est mis en place, bien sûr.
Il est aussi absurde de parler de migration tout le temps que d'en parler jamais. Des migrations, il y en a beaucoup, mais elles ne laissent pas beaucoup de traces. Parce que les gens abandonnent assez souvent toute une série de leurs caractéristiques lorsqu'ils arrivent dans un autre territoire. Donc actuellement, on a tendance depuis 50 ans à laisser de côté les migrations et à parler de population stable. Parce qu'on a cru longtemps que les Celtes étaient nomades, que les Celtes venaient de l'Est, etc. Tout ça, on n'a aucune preuve, on n'a aucun élément concret. Au contraire, on voit des paysans qui s'installent très fortement sur le sol dès le début de l'âge du bronze. Et donc, on n'a pas de raison d'imaginer que ces populations paysannes sont parties tout d'un coup. En plus, au niveau du climat ou de l'évolution de la végétation, on a des données qui nous montrent qu'il n'y a pas de discontinuité forte. Le seul paramètre que nous ne connaissions pas, mais ça viendra peut-être un jour, ce sont les maladies, comme celle qui a décimé le Moyen-Âge. Et ça a pu effectivement provoquer des mouvements de population importants.
Les archéologues arrivent à percevoir cette unité celtique au travers des objets, vous le disiez tout à l'heure, ce que les archéologues appellent donc la culture matérielle. Y avait-il pour autant une unité de langue de la Gaule à la Hongrie, voire même à l'Asie mineure avec les fameux Galates ?
Alors on a des témoignages très tardifs qui montrent que les gens, les Celtes de Bordeaux et les Celtes d'Asie mineure, à la fin de l'Empire romain, avaient des points communs dans leur langue. Bon, c'est un témoignage. De toute façon, la langue celtique a perduré, avec des changements très importants. Je ne suis pas linguiste et je ne me hasarderai pas sur ce domaine. Donc, il y a une langue celtique, il y a même probablement des langues celtiques. Nos collègues linguistes ne savent pas toujours très bien si les différentes variations locales qu'on peut avoir dans la prononciation des mots ou leur écriture, quand on les écrit à l'époque romaine, sont régionales ou chronologiques. Bref, il y a une mosaïque de langage avec tout de même une séparation assez nette du celtique, de l'ibère, du grec, du latin, etc. Donc ça commence assez tôt. Quand ? On ne sait pas. On sait simplement que d'après les textes, dès le 5e siècle, on a cette séparation.
Pour évoquer le premier âge du fer, ce que les archéologues appellent le Hallstatt, la période de Hallstatt, j'ai choisi de prendre pour thème les résidences princières. Ces résidences ont été, semble-t-il, l'objet d'importantes recherches depuis quelques décennies, voire la dernière décennie ?
Tout à fait. Donc il y a eu une première vague de travaux sur ces résidences dans les années 1950, après la guerre, avec des prémices avant, bien entendu. Mais c'est là que des fouilles très importantes ont commencé, notamment sur la Hüneburg, une petite fortification qui domine le Danube, tout près de sa source. Et là, très vite, on a trouvé à la fois un rempart grec, ce qui est étonnant, au nord des Alpes. On a trouvé des importations, enfin bref, tout un tas d'éléments qui ont conduit Wolfgang Kimmich et d'autres chercheurs à définir ce concept de Fürstensitze, donc de site princier, que préfère appeler résidence princière aujourd'hui, pour être un peu plus vague. Il s'agissait en fait de décrire un ensemble dans lequel on avait une fortification de prestige, des tombes extrêmement riches, des importations, le tout placé sur des points de rupture de charge ou sur des confluents entre, en gros, la Bohême et la Bourgogne. Et c'est donc dans cette zone, au pied des Alpes, côté nord-ouest, que l'on a ce phénomène, alors que parallèlement, dans d'autres régions très voisines, on a la même hiérarchie sociale avec des tombes plus ou moins riches, des tumulus pour abriter ces tombes, mais pas cette concentration sur des sites avec une fortification qui est habitée et qui donc constitue ce complexe de résidence princière. Alors les découvertes depuis une dizaine d'années, d'abord portent sur deux nouvelles tombes découvertes, celle du Glauberg et celle de Hohrdorf en Allemagne, et d'autre part, sur la découverte surtout de l'extension de ces fortifications. Pour prendre l'exemple de la Hüneburg, elle avait 3 hectares dans la vision classique des archéologues du siècle dernier. Aujourd'hui, on approche les 50 hectares. Deuxième point très important, les prospections géophysiques ont montré, aussi bien à Vix en Bourgogne qu'en Allemagne du Sud, que ces villes n'étaient pas qu'elles étaient occupées de façon extrêmement dense et qu'il y avait à l'intérieur des rues, des enclos, des maisons, quelquefois très importantes. Donc leur caractère urbain, tout d'un coup, est apparu manifeste, alors que j'avais moi-même écrit il y a une trentaine d'années qu'il n'y avait pas de ville à l'époque de Hallstatt.
Glauberg, en Allemagne, est daté du 5e siècle avant notre ère. Il s'agit là d'une forteresse d'une vingtaine d'hectares. Comment se présente le site ?
Alors le site du Glauberg, c'est une colline intermédiaire entre le massif volcanique sur lequel il s'appuie et la plaine de la Wetterau, qui est une plaine très riche près de Francfort. Donc situation classique pour une fortification de l'âge du fer, à mi-hauteur, je dirais un peu en dehors de la plaine, mais pas trop loin. Le Glauberg est un peu particulier parce qu'en réalité, la fortification, le noyau de la fortification n'est pas très grand. Pour le moment, il est mal connu, on connaît seulement le rempart, pas l'intérieur. En revanche, toute une série de fossés et de talus descendent dans la plaine en serrant une surface beaucoup plus grande, et notamment on a découvert une espèce d'allée aboutissant sur un cercle orienté selon le lever d'un astre à une saison précise de l'année qui ressemble à un sanctuaire, en fait qui évoque un sanctuaire comme on en connaît déjà au néolithique à l'époque des dolmens et des menhirs. Et en plus, on a trouvé là des tombes extrêmement riches qui le font classer dans la catégorie des résidences princières. Mais en fait, c'est un journaliste, je crois, qui a trouvé l'expression l'Olympe du Nord, que le fouilleur M. Hermann a repris à son compte en disant bah oui, finalement, pour le moment, on a plus d'éléments de sanctuaire et de sépulture que d'éléments d'habitat, même s'il y a une fortification importante.
Alors, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Bünchenschütz. On peut réellement parler de ville pour cette époque, c'est-à-dire grosso modo le 5e siècle avant notre ère ?
Alors là,
les archéologues sont d'accord là-dessus ?
Je ne sais pas si tous les archéologues sont d'accord, ça serait un peu triste si on était tout le temps d'accord, on n'aurait plus rien à se dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si l'on définit ce que l'on trouve dans ces agglomérations, donc à la fois une hiérarchie marquée notamment par les tombes, des productions qui sont exportées et pas seulement faites pour l'alimentation de la population, la concentration de cette population sur des surfaces importantes, de l'ordre de plusieurs dizaines d'hectares, voire de plusieurs centaines d'hectares. Qu'est-ce qu'on a en autre ? On a également la position à des points très clairs du paysage, très, très importants. Par exemple, le Pritzgiberg, qui est juste à la jonction entre le bassin de la Saône et le bassin du Rhin. Tous ces critères sont exactement ceux qu'on retrouve pour la définition moderne d'une ville. Et donc, dans ces conditions, on ne peut plus parler de sites religieux simplement ou autres. Il y a certainement des données religieuses aussi qu'on connaît au Glauberg, par exemple, mais pas ailleurs. Mais on a toutes les fonctions de la ville qui sont réunies. Donc là, l'évidence vient contre les idées des archéologues qui préfèrent imaginer qu'on a d'abord la campagne, puis les villages, puis la ville. Là, non, on a la ville et cette ville sera abandonnée.
Peu de choses laissent entrevoir le caractère princier du Glauberg, si ce n'est au pied de la résidence. Trois sépultures princières ont été découvertes sous des tumulus.
Tout à fait. Donc là, on a quelque chose de tout à fait étonnant. D'une part, la découverte de ces tombes qui étaient intactes, ce qui est relativement rare. Et surtout, et ça c'est vraiment extraordinaire, la présence à côté de ces tombes de sculptures en pierre, en ronde bosse, de taille presque humaine, représentant les personnages qui sont enterrés dans la tombe. Donc tout ça a eu des conséquences très rapides et bon, qui vont être maintenant tempérées, je pense, mais tout à fait importantes. D'une part, on a vu que ces sculptures représentaient le personnage qui était dans la tombe, puisque les costumes sont semblables sur certains détails comme sur certains points particuliers. D'autre part, on s'est rendu compte que cette sculpture en ronde bosse, relativement évoluée, disons, et assez naturaliste, existait dès le 5e siècle avant notre ère. Du coup, par exemple, en France, on a repris la datation des sculptures du Midi, notamment du site de Roquepertus, près d'Aix-en-Provence, qu'on avait classé vers le 3e, 2e, on ne savait pas trop, qu'on avait mis sous influence grecque. En fait, on a des modèles beaucoup plus anciens. L'influence grecque n'est pas exclue pour autant, mais dès le 6e, 5e siècle, on a des sculptures. Enfin, ça remet en avant ce qu'on connaissait, mais de façon moins nette, l'importance de cette sculpture en pierre à l'époque où en Grèce on fait des couroïs, donc des sculptures qui sont aussi un petit peu abstraites encore par rapport aux sculptures classiques.
Le crâne des sculptures porte d'invraisemblables bonnets, de grandes oreilles, une sorte de Mickey Mouse, pourrait-on dire. On vient de comprendre de quoi il s'agissait réellement ?
Oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé moi dans cette publication du Glauberg. Les fouilleurs qui ont dégagé l'une des tombes et qui l'ont fouillée en laboratoire se sont rendus compte relativement tard par rapport aux premières publications qu'il y avait dans la tombe deux petites baguettes de métal sur lesquelles étaient collées des éléments de fourrure et de tissu. Et ils ont eu l'idée astucieuse de comparer ça avec la représentation. Ils se sont demandé d'où ça venait. Et en fait, c'est visiblement ces espèces d'oreilles qui encadraient la statue qui correspondent à un chapeau qu'il avait dans la tombe. Le fait d'envelopper l'armature de fer de tissu étant une pratique qui est encore pratiquée par les chapeliers, s'il existe encore des chapeliers, ce que je ne sais pas. On s'est rendu compte que ces oreilles, ou ces gouttes, ces vessies, on dit quelquefois, ou ces feuilles de gui, représentaient une coiffure. Et en fait, on les connaît connaissait déjà sur des objets d'art celtique, mais comme dans les objets d'art celtique, surtout du 5e et 4e, les représentations sont noyées dans des éléments abstraits, on ne savait pas si les gouttes appartenaient à l'encadrement abstrait ou bien au personnage. En réalité, c'est un chapeau qui a certainement une signification, mitre ou casquette ou ce que vous voulez, ou casque, pas casque de défense bien sûr, et qui montre que ce personnage avait un rôle extrêmement précis dans la société, on ignore lequel.
Je reviens sur la fonction de ces sculptures. On sait bien sûr qu'il ne peut s'agir de dieux, puisque les dieux n'étaient pas représentés. Vous dites qu'il peut s'agir de princes, il ne pourrait pas s'agir aussi de héros.
On ne sait pas très bien. Alors, on ne sait pas très bien distinguer dans la littérature celtique le héros. Alors, moi, je pense toujours immédiatement aux légendes celtiques irlandaises, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus tardives. Donc, on a du mal à faire la liaison entre les deux. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le personnage qui est là, c'est celui de la tombe. Donc, c'est pas un dieu abstrait. Ou alors, c'est que le dieu est habillé comme les humains. C'est un prince certainement parce que, je dirais, tout ce qu'on a fait pour l'enterrer là représente le travail d'une communauté humaine tout de même très importante. Si on fait des comparaisons avec les autres ensembles, ça correspond aussi à un modèle économique où là, il y a une hiérarchie assez forte avec un prince, des petits princes qui reçoivent une partie d'importation, enfin tout un système. Et ce personnage n'est pas particulièrement militaire. C'est-à-dire qu'il a une épée, mais qui est un peu cachée sur le côté. Donc c'est quelqu'un qui a certainement une fonction à la fois religieuse et militaire sans doute. Mais donc le terme de prince, finalement, qu'on a beaucoup critiqué, est peut-être le tiroir le plus simple qu'on peut ranger ce personnage.
Olivier Binchenschütz, à la même époque, Bourges est déjà un ensemble important. Là aussi, des fouilles récentes dégagent des vestiges du 5e siècle.
Tout à fait. Donc Bourges est connu surtout pour l'époque médiévale, bien sûr, et puis pour l'époque de la conquête de la Gaule. Mais en réalité, nos collègues de Lafon, à l'époque, dans les années 80, ont découvert des traces beaucoup plus anciennes dans la ville de Bourges, un peu, enfin pas par hasard, mais disons sous tout un tas de choses médiévales et romaines déjà très importantes. Et petit à petit, ces fouilles ont été reprises, développées, notamment dans la périphérie de la ville, où nous fouillons actuellement. Et on s'est rendu compte, un, que Bourges avait le même mobilier que ces sites du Württemberg, de la Suisse et de la Bourgogne, au 5e siècle, et d'autre part, que l'agglomération de Bourges, enfin les vestiges de cette époque, étaient extrêmement étendus. Non seulement on les trouve dans le centre-ville, qui correspond grosso modo à la ville romaine et à la ville assiégée par César au 1er siècle avant notre ère, mais on les trouve jusqu'à 2 ou 3 kilomètres du centre-ville. Donc on arrive à des surfaces très importantes, même s'il ne s'agit que de faubourgs.
Sous le lycée Littré, un grand bâtiment en bois a été dégagé, donc daté du 5e, 6e siècle.
Alors celui-là est daté du 6e siècle, puisqu'on a de la céramique à figure noire attique qui donne une datation. D'autre part, les études de Laurence Augier sur la céramique confirment cette datation dans ce qu'on appelle dans notre jargon le Hallstatt Détroit, donc une mode en quelque sorte, le style nouveau, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est assez facile à déterminer. On est bien à la fin du 6e siècle. Pour ce qui est de l'architecture, les éléments sont malheureusement très morcelés parce qu'on est dans une petite surface et sous des bâtiments romains qui ont détruit pas mal de choses. Mais enfin, on a des constructions avec des parois en bois et en terre, des peintures, des enduits peints. Ça, c'est très important parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait des enduits peints à cette époque. Et récemment,
c'est
on a retrouvé à Vix.
C'est du jamais vu ?
C'est du jamais vu. Maintenant, il y en a à Vix, donc en Bourgogne, sur la fortification de hauteur qui est contemporaine. Et d'autre part, alors, nous avons trouvé nous-mêmes, dans les années, fin des années 90, des murs en terre, en argile, qui sont aussi d'une tradition méditerranéenne et pas du tout locale.
Ici, la céramique grecque est présente, des figures noires, des figures rouges, donc visiblement des importations lointaines.
Tout à fait. Donc on a à la fois cette céramique grecque qui est bien attestée, même sur les sites périphériques, on en trouve à peu près un tesson. Un pourcentage de l'ordre de 1% sur la masse des tessons que l'on trouve, qui est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de fragments. On a également des amphores de Marseille, de la céramique claire du Midi de la France, mais d'autres types d'importations dans le décor, puisqu'on a du lignite qui peut venir du Massif central, du corail qui vient vraisemblablement de Méditerranée et de l'ambre qui vient certainement de la Baltique.
Tous ces objets qui viennent d'Italie, de Marseille, voire peut-être même de plus loin, sont bien sûr des objets de prestige, éventuellement contrôlés par un pouvoir fort.
Des objets de prestige, oui, ça devait coûter très cher. Contrôlés par un pouvoir fort, ben ça c'est nos modèles économiques qui le disent, on ne sait pas très bien. Ça veut dire simplement que les communications étaient possibles, qu'elles étaient souhaitées, et qu'il y avait donc des échanges. Ces échanges, c'est certainement effectivement à l'époque plutôt des échanges entre des élites que des échanges commerciaux. On n'a pas encore, mais je sais, il faut jurer de rien, on n'a pas encore de monnaie pour cette époque. Il y a une monnaie en Allemagne, mais qui n'est pas lisible, malheureusement, trouvée sur un de ces sites. On a des balances. On vient de trouver un poids à Bourges, c'est un scoop, ça. un poids en pierre, donc avec une anse en fer qui doit correspondre au besoin de peser quelque chose. Mais enfin, on n'est pas dans le système
économique. Et qui est d'origine grecque
qui est du 5e, on ne sait pas du tout d'où il vient. Est-ce que c'est les gens qui l'ont fabriqué là? On ne sait pas.
Mais en fait, disons que la balance est connue.
Les poids et mesures sont connus. On ne sait pas encore de quelle unité il s'agit. Donc, si vous voulez, moi, je préfère pour le moment ne pas parler de commerce. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des échanges à longue distance qui sont très vraisemblablement contrôlés par un pouvoir assez fort. Mais en même temps, vu qu'on trouve de la céramique attique dans des fosses d'artisans, ils sont apparemment partagés par une bonne partie de la société.
L'exploration extramuros de l'actuel Bourges sur un terrain militaire met en évidence l'extension de l'habitat du 5e siècle avant notre ère. Là, c'est aussi une chose tout à fait nouvelle.
Oui, alors là, si on extrapole les découvertes qui ont été faites autour de Bourges par nos collègues du service d'archéologie de l'agglomération ou par l'INRAP, si on trace un cercle, on arrive à des surfaces que j'ose pas annoncer, mais qui sont de l'ordre de plusieurs centaines d'hectares. Alors évidemment, on a ces fosses qui sont bourrées d'ossements, de céramique, de bijoux, où on a fabriqué des fibules, où on a travaillé le corail, on a travaillé l'ambre et le lignite. Donc c'est vraiment une activité très forte. En revanche, la densité des fosses n'est pas très forte, donc on peut imaginer que ce sont des gens qui travaillaient une partie de l'année. Mais enfin, disons qu'en tout cas, la ville de Bourges, quelle que soit sa taille à cette époque, a attiré périodiquement, ou je dirais temporairement, des centaines d'artisans sur un territoire qui n'est pas celui de la Bourges actuelle, qui est celui du périphérique qui contourne Bourges. Donc ça vous donne une idée. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que sur ce terrain militaire, avant les militaires, il y avait des vignes. Avant les vignes, il y avait un petit cimetière médiéval. Avant, il y a eu des silos du 3e siècle, et puis avant, il y a le 5e siècle, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de Romains, par exemple, pratiquement pas. Donc c'est vraiment une époque de très forte extension de cette région du Berry, et qui montre l'importance de ce 5e siècle dans notre histoire.
Ces très grandes surfaces renouvellent aujourd'hui aussi les modèles qui avaient été émis par les archéologues. Nous voici donc devant de véritables métropoles, les villes dont vous nous parliez tout à l'heure.
Voilà, donc là, on a eu tendance, à la suite des géographes et des anthropologues, au sens anglo-saxon du terme, à vouloir voir l'apparition progressive du village, de la ville, de l'agglomération, du centre comme quelque chose de presque mathématique, enfin de réductible aux mathématiques. En réalité, ce que l'on voit avec le phénomène de ces résidences princières, c'est qu'il se produit dans un temps limité, dans un espace délimité, ce qui n'empêche pas d'être extrêmement important et clair dans ces manifestations. Donc la transformation d'agglomération, qui pouvait être religieuse, militaire ou tout ce qu'on veut, en ville, s'est produite de Bourges à la Bavière, enfin une partie de la Bavière, pas toute, pendant un siècle et demi, et puis après ça s'est arrêté et ces agglomérations ont totalement disparu.
A-t-on aussi, Olivier Bunchetschutz, à Bourges, ces grands tumulus princiers, on parlait du Glauberg, mais il y a Ordorf, etc., etc. Est-ce qu'ils sont aussi présents donc,
alors, ils sont
dans
présents,
la région
tout à
centre
fait.
De la France
D'abord, il y en a des très grands dans la région centre, le long de la Loire notamment, qui ont été fouillés récemment et repris notamment par Stéphane Verger et Pierre-Yves Milsan, qui montrent qu'il y a eu une mode, alors un peu plus tardive que ce qu'on a à Bourges, en fait, dans un 5e siècle bien tassé, où on a de très grands tumulus avec des personnages enterrés. Un point commun avec le Glauberg dont on parlait, avec Ordorf, une des tombes allemandes, c'est que l'un de ces personnages porte une coiffure en écorce de bouleau, en forme de chapeau chinois, comme on dit. Donc on voit bien qu'on est dans le même réseau aristocratique, qui est à la fois très lâche et qui couvre une bonne partie de l'Europe. Donc on a ces grands tumulus près de la Loire. Autour de Bourges, il y en a eu. Il y a eu des fouilles, malheureusement, il y a longtemps. Et donc on a souvent le matériel métallique, mais on n'a plus de plan de tombe ou le matériel qui était associé. Donc on sait pour cette raison, d'après les choses qui ont été conservées soigneusement au musée de Bourges, qu'il y a des vases en bronze importés d'Italie, importés de Grèce, etc. Mais on n'a pas, pour le moment, une tombe spectaculaire. On en a fouillé une avec Jan Rastogne et Pierre-Yves Milsan il y a quelques années, où on a trouvé des éléments qui permettent aux archéologues de dire que c'était une tombe très riche, mais elle avait été en partie pillée.
De Bourges à Glauberg, en passant bien sûr par Vix, sur quel pouvoir s'appuient ces princes du premier âge du fer, du Hallstatt?
Alors, on n'a pas énormément de modèles de comparaison, même en Grèce ou en Italie à l'époque. Hein, les textes ne sont pas si pour la Grèce, bien sûr, mais enfin, c'est un peu la phase archaïque. Donc, on a des manifestations matérielles qui sont relativement claires. On peut mesurer de très près leur économie, on peut mesurer également leur centre d'intérêt, on peut mesurer même leur consanguinité, puisqu'on a maintenant des relations ADN entre différentes tombes, et on voit qu'il y a des liens familiaux entre ces personnages. On remarque aussi leur haute stature. Ils font quelquefois le prince du... Je ne sais plus si c'est celui d'Ordov ou du Glaber, qui fait presque 2 mètres de haut. Donc on arrive à savoir des tas de détails sur eux, mais pas toujours ce qu'on voudrait. Ils ont un pouvoir. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux époques précédentes, la hiérarchie dans le mobilier et l'ampleur de la tombe s'est considérablement développée. C'est-à-dire qu'on n'est plus à une tombe riche, on est une tombe absolument exceptionnel. Et on peut, alors on pourrait jouer ensuite sur le, ne serait-ce que par la taille des tumulus, pour montrer qu'il y a toute une série d'échelons dans la richesse des tombes qui correspondent peut-être à des échelons dans la société. On peut parler d'un pouvoir héréditaire, puisqu'on voit bien qu'il y a des relations ADN, si je puis dire, entre ces personnages, bien qu'ils n'aient pas tout à fait les mêmes rituels. Ça change très vite, une génération à l'autre. On n'a plus les mêmes vases, on n'a plus le même traitement du corps. On passe de l'inhumation à l'incinération. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport aux périodes d'avant et aux périodes d'après, c'est que l'élément militaire est beaucoup moins présent. On a l'impression d'avoir affaire, plutôt, on a parlé de prêtres même, on a des objets pour la chasse, on a des objets pour la pêche, qui accompagnent des parures en or, donc c'est quelque chose qui est certainement, qui fait partie de la vie aristocratique. Dans la région de la... dans la Slovénie, dans ces régions-là, on amène des représentations sur des vases en bronze qui montrent des fêtes, des jeux. Donc on est tout à fait dans le monde, un monde assez proche du monde méditerranéen, avec des jeux et des chasses, des banquets, bien sûr. La représentation de banquets, on en a énormément aussi. On a des chars qui jouent un rôle très important. Donc il y a toute une série de critères qui montrent qu'on est dans une société avec des caractéristiques extrêmement précises. Et si on prend l'exemple de la tombe de Vix, dont la publication a été reprise par Claude Rollet à l'occasion des 50 ans de sa découverte, on voit bien comment, même lorsque du matériel grec ou italique est introduit dans ces tombes, il est redigéré à la sauce locale, il est réintégré dans un rituel dont nous n'avons pas toutes les clés, mais visiblement aussi un rituel aussi complexe que celui qu'on peut trouver dans les régions plus méditerranéennes.
Olivier Bunchenschutz, puisqu'il nous reste une minute, à l'image d'Alésia et de Gergovie, Bourges possède-t-elle des vestiges gaulois liés au fameux siège de César ?
Alors curieusement, nous avons assez peu de restes du siège de César. Bon, on ne s'attendait pas à trouver une couche d'incendie de 10 cm d'épaisseur. En fait, ce qui a dû se passer, c'est que les aménagements romains très importants à Bourges ont rapidement nettoyé les couches les plus récentes, donc les couches de l'époque du siège. Et de cette façon, on a des couches du 2e siècle avant notre ère, mais vraiment des couches contemporaines de la conquête. On a du mal à les trouver.
Olivier Bunchenschutz, merci beaucoup. Puis donc, je rappelle le titre de votre livre, Les Celtes, publié chez Armand Collin. Et je signale l'exposition L'âge du fer dans la boucle de la Loire, qui se passe donc, bien sûr, à Bourges.
Et à Saint-Amand.
Olivier Bunchenschutz, merci beaucoup. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à l'expédition La Pérouse et mon invité sera Michel Lourd, le directeur du DRASME. Le Salon Noir était réalisé par Daniel Fineau à la technique Jean Frédérics. Le Salon Noir, une coproduction France Culture sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie Arquetis du ministère de la Culture. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain à 14h où vous pourrez retrouver Science et conscience de Philippe Petit, mais dans quelques instants, à 15h, à plus d'un titre par Toufik Hakem et Jacques Munier.